Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Frappe à une porte.
Entrez.
Il entre. C'est un bureau. Jean, médecin. Médical. Moderne. Meuble en métal. Un homme est assis à son bureau, blouse blanche, il est grand, mince, cheveux blancs. Son corps semble être maintenu, droit, par des sangles en métal. Son visage est fixe et plein de cicatrices. Il n'y a plus de bras. Le médecin demande à l'homme.
Alors,
j'ai tiré une balle dans la tombe.
Mon Dieu, il ne fallait pas. Le cerveau, j'aurais bien dit de l'empêcher de faire ça à la tempe.
Je suis arrivé trop tard, mais tout de même, on l'a tout de suite mis dans le frigo, rapidement, le médecin lui dit.
Maintenant, il va falloir l'examiner et voir les dégâts.
Et le père, bien mort.
Tant pis, c'était un brave homme, mais il le fallait.
Non, rien. Comme d'habitude, personne n'a réagi au coup de feu.
Bien. Merci.
Et l'homme le quitte. Le médecin soupire. Prend son téléphone et fait un numéro.
Allô? Je vais voir le cadavre 651. Oui, j'y vais tout de suite. Je veux l'examiner un peu.
Il décroche. Se lève péniblement. Sort de la pièce. Longe le couloir pour prendre l'ascenseur. Arrivé au rez-de-chaussée, il va vers la pièce où a été déposé le conteneur frigorifique. Un homme en blanche, cheveux blancs, dans les 30 ans, grand, mince, est devant la porte. Le médecin lui demande
« Bonsoir, entrons. »
L'homme ouvre la porte et éclaire. La pièce est vaste, peinte en vert très pâle. Carreau au sol, elle est vide, sans fenêtre. Le conteneur a été déposé sur des pierres en métal, un fil électrique, le branche au courant pour lui maintenir en marche le moteur du froid. Le conteneur est en métal, en forme rectangulaire et à les dimensions d'un cercueil. Les deux hommes s'approchent du conteneur. Le médecin appuie sur un bouton qui est sur le côté du cercueil. Le haut du cercueil conteneur s'ouvre. On voit à travers une vitre le cadavre Serge qui est allongé avec ses vêtements. La peau du visage et les mains très blanches. Il a les yeux fixes, les lèvres blanches. Tout à coup, des cheveux aux chaussures, il est recouvert d'une couche comme de la neige blanche. Ça le rend irréel et le transforme en statue. Le médecin voit sur la tempe droite le troude, un trou rouge, au milieu noir. Le sang était congelé, le médecin dit.
Je vais ouvrir pour mieux voir.
Aidé de l'homme, il ouvre le couvercle du conteneur en ouvrant les targettes. Une fois le couvercle levé, une fumée froide les envahit. Le médecin se penche et regarde la blessure. Touche autour, tout le visage, lui regarde les yeux et dit
« Demain matin, nous commençons l'opération. »
« Bien, monsieur. »
« Remettons en place le couvercle. »
Et ils remettent en place le couvercle. Puis, ils sortent de la pièce. Le lendemain matin, les infirmières, top secret, installent dans la grande pièce tout ce qu'il faut pour une opération. Table d'opération et appareils, etc., etc. Puis, on sort le corps de Serge. On le dépose délicatement sur la table. On lui enlève ses vêtements on les lui découpe. On a des difficultés à les lui enlever car congelés. Les vêtements ne sont pas jetés. Les infirmières les regardent, enlèvent les choses qui sont dans les poches. Ils mettent dans un sac en plastique. Les vêtements seront examinés au microscope pour voir s'ils ne peuvent pas servir pour avoir des bouts de peau de serge microscopique que l'on peut mettre en culture pour refaire du tissu, comme on en aura besoin pour la blessure, cacher la blessure ou autre. On veut transformer le visage ou autre. Donc, on garde les parcelles microscopiques qui se trouvent dans ses vêtements. Le sang, bien entendu, revitalisé, servira pour les opérations. Peut-être un peu de sperme dans le slip. Cela peut servir pour la descendance, pour lui ou pour le groupe, pour faire du mutant ou chimère. Et bien entendu, l'ADN, sans compter des morceaux d'ongles ou de poils qui peuvent servir. Une fois que Serge est nu sur la table, on a refroidi la pièce et les infirmières médecins travaillent avec des vêtements appropriés à la basse température. Une fois que tout est prêt, le médecin arrive, lui aussi habillé pour cet effet. Il va vers la table, examine Serge de la tête aux pieds. Voir que le corps est parfait, sans cicatrices, bien fait comme celui d'un jeune adolescent de 15 ans, juste des poils ou parties intimes. Il dit « Nous allons faire une radio de tout le corps et la tête. » Et il pousse la table où se trouve Serge dans une machine avec où se trouve une ouverture noire. Il pousse la table à l'intérieur de la machine. De côté de la machine, il y a un écran de télévision et une manette pour manœuvrer la caméra. Une autre pour les gros plans. En même temps, elle fait des photos de tout, des images que demande le médecin. Le corps et les organes sont parfaits, la tête aussi. Le trou n'est pas très profond et la balle sera facile à enlever. Le médecin dit, il va falloir l'opérer et enlever la balle. Puis, nous mettrons un bout de peau pour cacher le trou. Il avait un visage parfait. Il faut lui redonner un visage parfait. Et l'infirmière, que l'on mette la culture de la peau. L'infirmière sort et va mettre en culture les morceaux microscopiques de peau qu'on a trouvés dans les vêtements de Serge. Ces bouts de peau microscopiques seront mis sur un plateau, revitalisés par de l'eau, par du sang de Serge aussi trouvé sur des vêtements et de l'ADN. Ensuite, on mettra des bactéries qui vont aider à la fabrication des bouts de peau, à l'agrandissement des bouts de peau pour les développer.
Tu peux fermer.
Pendant ce temps, on enlève Serge, l'on nettoie
cerveau n'a pas été touché. On enlève la balle de Serge. Puis on le remet dans son conteneur.
Voilà. Je te laisse, madame. Tu peux fermer.
Puis, une fois que la peau était suffisamment grande, on la lui greffe. Puis, on décongèle petit à petit Serge. On lui injecte du sang à lui, grâce au sang qu'on a trouvé sur ses vêtements, qui a été réactivé, et on l'a fait multiplier. Et on branche sur tout le corps des fils électriques pour lui donner des secousses et réactiver les nerfs. Corps nu, avec des fils électriques, le branchement pour le sang, on le met dans une boîte transparente allongée, puis on envoie en permanence des rayons laser. Ce qui fait sang, électricité, laser, et en plus une sonde mise dans le cerveau qui est reliée à un ordinateur qui envoie des ordres au cerveau, au centre nerveux, pour le revivifier. Le remettre en marche. Le cerveau et le sang, le laser et la sonde, qui donnent les ordres au cerveau et qui cherchent surtout à remettre en marche la partie du cerveau qui a débranché la commande pour donner la mort. Ce qu'il faut, c'est informer la partie qui est centrale, que l'on peut tout remettre en route, que c'est réparé. Mais comme cette partie-là est morte, ce n'est pas facile pour la revivifier. Mais elle est morte que physiquement. Elle n'a pas eu le temps de se désagréger. Elle a été tout de suite congelée, morte simplement mécaniquement ou électriquement. Et bien entendu, vitaminée à fond. Pour nourrir le patient. En plus, une fois par jour, on lui fait une piqûre pour des vitamines et le fortifier. On frictionne le corps de la tête aux pieds avec de l'éther. On le masse pour que les muscles reprennent vie et ne s'engourdissent pas. On bombarde le corps pour le faire remarcher. On lui met du sang en permanence. Le corps rayé, aidé par les rayons électriques et le sang, il se remet en marche artificiellement, c'est-à-dire aidé. Il envoie le sang dans tout le corps. Le sang est oxygéné continuellement. On envoie aussi de l'oxygène dans les poumons. Le sang vitaminé, oxygéné, se déplace dans le corps, de partout, entre dans les cellules, etc. La peau, au bout de quelques jours, devient moins noire, moins morte, plus rosée, souple, chaude. Ceci veut dire que les cellules se remettent à vivre. Mais ça ne veut pas dire que Serge revive. Il est toujours mort tant que le cerveau ne répond pas, ne reprend pas du service et que les organes ne se remettent pas en marche.
Dindy, il reste plus qu'à attendre maintenant. Continuez tout ça.
Pour réactiver le cerveau, en plus du sang, des rayons laser et de la sonde, on envoie au cerveau central. On lui envoie pour lui prouver qu'il est vivant, du son, des images, des sensations, du toucher, du goût. Les informations sont faites pour lui prouver que la vie entre chez lui et qu'il n'est pas mort. Voilà en gros la chose. Revenons en arrière. Demain du crime, le domestique entre dans la villa des Leduc. Il a la clé pour ouvrir le portail. Il va jusqu'à la maison. Là, arrivé devant la maison, il voit que la porte est ouverte. Elle est restée ouverte. Alors, il sonne. Pas de réponse. Monsieur, monsieur. Pas de réponse. Il se dit qu'il a dû aller au jardin. Alors, il rentre. Il est rentré dans la maison. Et va à la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Comme il le fait chaque matin. Une heure plus tard, il sort de la cuisine pour aller déposer le petit déjeuner au salon. Il n'y a toujours personne. Il entre au salon. Et pose le petit déjeuner sur la table. Puis, comme il n'y a toujours personne, il se dit que peut-être qu'il est malade. Donc, il va aller voir à l'étage. Il sort du salon. Et va voir à l'étage. À l'étage, il voit que la porte de la chambre est grande ouverte. Et là, il voit le corps de Jean sur le lit, inerte, de travers, à travers du lit, en pyjama. L'homme fait « Merde !» et accourt vers le lit. Il voit qu'il est bien mort. Il décide de descendre au salon pour téléphoner à la police. Une heure plus tard, la police est là. Ils ont photographié, pris des empreintes, pris le corps, visité la maison et le jardin, posé des questions domestiques aux voisins. Les voisins ont dit qu'ils avaient entendu un coup de feu dans la nuit et qu'un chien avait aboyé, plus une personne qui courait dans la rue, etc. Et l'on commence l'enquête. On téléphone au camp pensionnat où le fils se trouve. On apprend qu'il a fugué le soir du crime. On recherche ce fils. Aucune trace. Juste d'après sa carte de paiement, qu'il a pris le train pour Paris et un taxi pour aller voir son père. Mais avant, qu'il avait pris un autre pour aller boulevard Haussmann. Et puis, il a disparu. D'après les enquêteurs, c'est un garçon sérieux, mais connu, parce qu'il avait déjà fait plusieurs fugues. D'après sa carte de paiement, il va surtout boulevard Haussmann, au même numéro. Il y va toujours en taxi. La police fait les immeubles dans la rue, avec la photographie de Serge. Ils montent dans l'immeuble de Judith, font comme dans les autres, relèvent sur les boîtes aux lettres, en montrent les noms des locataires, et vont les voir un à un avec la photo. Certains ont reconnu Serge et croyaient même qu'il habitait ici, l'immeuble. Cela prouve qu'il y allait fréquemment. Et personne ne peut savoir à quel étage il allait. On sonne chez Judith. Elle ouvre. Elle est en peignoir beige. L'inspecteur est un homme grand, fort, chantin dans les 30 ans, costume gris. Il lui dit, « Madame, je m'excuse de vous déranger, mais nous faisons une enquête et nous aimerions vous poser quelques questions. » « Entrez, messieurs. » Ils entrent. Elle ferme la porte. Venez. Elle les mène au salon. Asseyez-vous. S'assoit dans un fauteuil. Et elle va s'asseoir en face de lui. Je vous écoute, monsieur. L'homme lui montre la photographie et lui demande. Vous connaissez ce jeune homme? Elle lui dit. Me semble, peut-être, pourquoi? Parce qu'il a disparu et que son père est mort. Et nous voulons l'informer de cette triste nouvelle. Elle lui dit. Ce doit être très désagréable d'annoncer une chose comme celle-là. Oh, que oui. Bon. Il sort son carnet et lui dit. Comme pour toutes les personnes que j'interroge, je vais vous poser quelques petites questions. Nom, prénom. Judith Claire, profession. Directrice, secrétariat, réclamation. Pour quelle maison? Framblant. Tiens, tiens. Elle fait. Oh. Il lui dit, non, rien. Bon, eh bien, madame, c'est tout. Il se lève. Elle le raccompagne. Bon, eh bien, au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Et il sort. On interroge les domestiques et les domestiques disent qu'il y avait une femme jeune, grande, mince, belle, rousse qui venait voir souvent le père. Son nom, on ne l'a jamais su. Puis le commissaire, celui qui a interrogé Judith, va au groupe, dans le groupe Framblant, interroger le personnel. Tout le monde dit qu'il était sérieux, bien, pas d'histoire. Mademoiselle Lapin dit au commissaire : je suis une fille honnête et je suis restée vierge malgré les attaques incessantes que j'ai eu. Je ne peux pas dire que monsieur Jean le Duc s'est toujours bien comporté avec moi, et c'est le seul, avec le président, bien entendu. Puis, le commissaire retrouve Judith dans son bureau. Il lui dit, je vous connais. Elle lui dit, oui, nous sommes déjà vus. Il lui fait, ah oui, vous connaissez bien monsieur le duc. Oh, un peu, oui. Et son fils? Lui, non, pas vraiment. Il lui dit, pourtant il venait souvent dans votre allée. Elle lui dit, je ne sais pas, il est peut-être allé voir quelqu'un. Et puis, l'on peut se tromper. Tous les jeunes se ressemblent. Ils se ressemblent trop. Vous confirmez que vous ne connaissez pas. Vous n'allez jamais voir le père. Elle lui dit, une fois ou deux. Il lui dit, pourtant, une mystérieuse femme rousse allait le voir. Je ne sais pas si je montrerai votre photo domestique. » Elle lui dit, « Peut-être bien, mais ça ne changera rien. » Et lui demande, « Vous vivez seul ?»« Oui. » »«
Pas de petit ami ?»«
Non, et puis, ça n'est pas défendu. » Et lui dit, « Non, bien sûr. » Il se lève et lui dit, « J'en ai fini pour le moment, mais je crois que nous nous reverrons. »
Il dit, « Sûrement, le monde est si petit. » Et il la quitte.
Une fois au commissariat, il cherche sur l'ordinateur pour voir si elle n'a pas de casier judiciaire. Non, rien. Mais il se dit que ça peut être effacé. On a peut-être effacé les archives. Normal. Et que peut-être. Donc, il décide d'aller quai des Orfèvres. Là, se renseigne à son vieil ami, le directeur qui est un homme grand, mince, cheveux châtains, sympathique, dans les 40 ans, costume noir. Il est dans son bureau, une pièce assez grande, meublée Napoléon III. Directeur de la santé, car c'est lui, lui dit
« Cette femme a eu plusieurs fois des démêlés avec la police, toujours pour la même chose, des crimes dans le personnel Franc-Blanc, était plus d'une fois suspectée de ces crimes. »
Ça lui demande « Mais pourquoi ne pas l'avoir arrêtée ?» Il lui dit «
Parce que nous avons reçu des ordres très haut placés d'annuler les recherches et de détruire tous les dossiers. Qu'aucune trace de la belle Judith doit rester chez nous. »
Le commissaire lui demande.
Espionnage? Non, plutôt affaire d'État très particulière. Alors que faire?
Il lui dit.
Vous continuez. Peut-être qu'ils ont changé d'avis. Et qui veulent l'arrêter. Mais si on voulait l'arrêter, vous le faites.
Bien, monsieur. Et il sort du bureau.
Il se dit, encore une affaire d'État.
Les jours passent. La police continue son enquête, recherche toujours cherche, et le pourquoi du crime. Pas de vol, la victime tranquille, Il n'y a qu'une ombre au tableau, cette Judith. Et le fils, pourquoi a-t-il disparu? Est-ce lui qui a vu en premier le cadavre de son père? Dans le groupe, tout le monde est atterré. Tout le monde est vraiment atterré. Mademoiselle Lapin pleure tout le temps. Elle ne cesse de dire « Lui, j'aurais bien voulu. Il était si beau et gentil. J'ai vraiment pas de chance. » Maurice est très triste lui aussi. Continue à voir Judith, il la trouve très bien, sérieuse et efficace. Gilbert a appris la mort par son père. Il est triste lui aussi. Il dit à Julien, « C'est un brave garçon qui n'a pas de chance. Sa mère morte, lui en pension, et maintenant son père. Où peut-il être ?» Julien lui dit, « Si c'est la mort de son père, il va être frustré et se terrer. » Gilbert lui dit, « Dès qu'on le retrouve, nous occuperons de lui. Je vais le demander à ma mère. » Le soir, au dîner, il le demande à sa mère. On pourrait l'aider, le loger chez moi? Elle lui dit, oui, tu as raison, ce pauvre enfant a besoin de tendresse et de vie calme. Il deviendra ton petit frère. Les jours passent, l'enquête piétine. Le commissaire décide, c'est de demander un mandat d'arrêt pour Judith Lair. Il en fait la demande au juge avec son dossier. Il va à son bureau. Le juge a bien accepté de le recevoir.
Entrez. Ah. Veuillez vous asseoir, mon ami. Monsieur le juge.
Tom, châtain, moustache, costume marine, petit bureau, 1960. Le juge lui dit,
vous êtes bien sûr de votre coup.
Oui.
Parce que cette histoire est particulière. Elle touche les gens de la haute, et la politique, si l'on veut. Je veux bien vous signer votre papier, mais avant, je vais le demander à mes supérieurs.
Il prévient son supérieur qui lui dit
« Amenez-moi le dossier !»
Et le supérieur va voir le ministre de la Justice qui le reçoit à son bureau.
L'affaire est suivie de très près par le président de la République lui-même. Il m'a donné l'ordre, c'est de vous demander de clore le dossier et de détruire et qu'il n'en reste aucune trace de cette affaire. Le commissaire lui dit, et cette femme ?
Le ministre lui dit, surtout pour elle, secret défense, ultra confidentiel. Il va, paraît-il, de l'avenir de notre monde. Il paraît que même le pape surveille de près tout ça. Le commissaire lui dit, mais elle va continuer à éliminer du monde. Le ministre lui dit, il sera impossible de tous les éliminer. Il y en aura trop. Et le jeune homme, le fils, le ministre lui dit, laissez-le en paix. Allez, détruisez tout ça et occupez-vous d'autre chose. Cette affaire n'a jamais existé. Les historiens ne doivent rien trouver là-dedans, ne doivent rien savoir. Comme pour les rois mérovingiens, on doit nier l'existence. Voilà. Le commissaire se lève et sort du bureau.
Il donne l'ordre, c'est d'arrêter l'affaire, l'enquête, de détruire les dossiers, mais pour lui Judith est dangereuse, il aura l'œil sur elle. Un après-midi, le téléphone sonne dans le bureau de Judith. Et... Allô ? Oui ? Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.